Bonjour à tous, je m'appelle Maëlys et je suis en compagnie de mes camarades Lila, Esli, Ilona, Morgane et Ashley. Nous sommes dans la classe média en 4e estanguée du collège Pierre Lanqui de Villeneuve-de-Marsan. Aujourd'hui, nous avons rencontré Lydie Salver, une autrice de romans en résidence au festival Arte Flamenco.
Bonjour à toutes, donc je m'appelle Lydie Salver, comme vous le savez. J'écris depuis une trentaine d'années, on va dire. J'ai travaillé d'abord comme pédopsychiatre, où je recevais des adolescents et des, comme vous, et des enfants. J'ai adoré ce métier. Sachez en tout cas que j'ai dû écrire une quinzaine de livres, je crois. J'ai obtenu le prix Goncourt en 2014, d'autres prix plus secondaires, et cette année j'ai obtenu le prix Marguerite Yourcenar, qui a été attribué, excusez du peu, à Annie Ernaux, prix Nobel, Pierre Michon et d'autres écrivains. Donc j'étais très heureuse de ça, voilà.
Qu'est-ce qui vous a poussée à faire écrivaine ?
Alors, je suis née, comme vous le savez peut-être, de parents espagnols, qui arrivent en France en 1939, après la guerre civile d'Espagne. Et ils arrivent en France sans savoir un mot de français, vraiment. Et petit à petit, ils vont l'apprendre, mais faire des tas d'incorrections. Ils vont parler ce que j'appelle dans un roman le fragnol. C'est-à-dire qu'ils déforment les mots, comme vous avez peut-être entendu des étrangers le faire. Et quand je suis à l'école, je suis dans la crainte de reproduire les incorrections que font mes parents à longueur de journée. J'ai deux ou trois souvenirs où on me remet à ma place parce que j'ai mal dit certains mots. Et du coup, je vais avoir une espèce de crainte à prendre la parole en public, qui dure encore d'ailleurs un peu, des années après. Je vais donc me réfugier d'abord dans la lecture, passionnément, parce que, outre le fait que les récits me plaisent, j'ai l'impression que j'y apprends le français. Beaucoup plus tard, cette difficulté à m'exprimer en français, je vais la convertir en écriture. Ce que je ne pouvais pas dire oralement comme je l'aurais souhaité, je l'ai écrit. Tout ceci pour vous dire, puisque vous êtes élève, que les difficultés, si on les surmonte, elles deviennent une force. C'est une banalité de le dire. Donc, n'ayez pas peur de vos difficultés, quelles qu'elles soient. Il y a des dysorthographies, des timidités, des choses comme ça. Elles peuvent se convertir en force. Voilà ce que j'ai un peu envie de vous dire rapidement comme ça. Je pourrais en dire plus sur l'histoire de mes parents. Donc, ils abandonnent tout ce qui fait leur vie, hein, leur famille, leur langue, leur culture, leurs amis, pour fuir le franquisme. Franquisme qui était, on va le dire comme ça, qui était une sorte de fascisme. Hein. Et ils viennent en France parce que c'est le pays des droits de l'homme, de la liberté, etc. etc. Ça va être très dur leur arrivée parce que lorsqu'ils arrivent en 1939, ils sont d'abord hébergés dans le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer. Ils dorment à même le sol. J'ai gardé une couverture de ma mère de cette époque, qui est une espèce de chose très fine, bref. Et petit à petit, ils vont finir par s'installer en France. Tout ceci pour vous dire que j'ai gardé une extrême sensibilité pour tous les gens qui sont en difficulté, soit parce qu'ils sont migrants, soit parce qu'ils sont pauvres, etc. Et je dis que jusqu'à ma mort, je garderai une empathie absolue contre ces gens qui, pour X raisons, vivent pauvrement ou à l'écart, etc., etc.
Comment trouvez-vous votre inspiration ?
Chaque livre démarre avec des inspirations différentes. C'est parfois une chose lue dans un journal, un souvenir de ma jeunesse et de ma vie familiale. Pas pleurer, par exemple, est inspiré de l'histoire de ma mère, donc qui est à 17 ans, quitte son village, fait 45 jours de marche à pied en Espagne jusqu'à la frontière française, etc. etc. J'ai écrit l'année dernière une satire qui s'appelle « Irréfutable essai de successologie », qui est une critique violente de cet amour qu'ont les gens de cette obsession d'obtenir du succès, d'être vu à tout prix, de paraître, de faire des selfies à tout bout de champ. Et c'est une chose que je trouve très triste, de ne penser qu'à ça et de ne vivre qu'en fonction de ça, voilà.
Pourquoi cette envie de changer de métier ?
J'ai pas changé de métier, justement. J'ai exercé, j'ai d'abord fait des études de lettres, puis des études de médecine, puis des études de psychiatrie. Et j'ai travaillé jusqu'à ma retraite comme pédopsychiatre, tout en écrivant. On peut faire l'une et l'autre. Et j'étais très heureuse d'avoir un métier. D'abord parce que ça me faisait rencontrer la société, que je ne vivais pas enfermée dans une chambre hors du monde et sans savoir comment vivent les gens, puisque j'avais les familles et les enfants qui venaient dans le CMPP où je travaillais. Ça m'assurait un salaire, ce qui fait que je n'avais pas à choisir des sujets à la mode. Je déteste ça, des sujets qui plaisent, c'est-à-dire souvent des trucs affreux. Et comme j'avais un salaire, je faisais ce qui me plaisait, sans souci aucun de plaire au grand nombre. Voilà pourquoi ça a été important pour moi de travailler. L'un n'a jamais empêché l'autre. Je peux même dire que l'un a enrichi l'autre sans cesse. L'expérience de la consultation auprès des enfants en difficulté, de leurs souffrances, de leurs symptômes, etc. La rencontre avec les parents, souvent démunis, m'a fait grandir en humanité, si j'ose dire. Ça n'était pas des passions hostiles l'une à l'autre, bien au contraire, bien au contraire.
Quel souvenir gardez-vous du flamenco ?
Alors, comme vous l'avez compris, je suis donc née de parents espagnols, d'une mère catalane, donc qui n'avait aucun rapport avec le flamenco et tout ce qui vient de l'Andalousie. En revanche, mon père est né à Jaén, c'est une ville située au sud de l'Andalousie, et lui a été bercé dans son enfance et sa jeunesse par cette culture du flamenco, de la tauromachie, de tous ces arts espagnols. Moi, ça ne m'intéressait pas spécialement, je dois le dire. Le flamenco, je préférais Jimi Hendrix ou je ne sais pas qui, ou les derniers rappeurs, ou enfin, ce qui parlait aux adolescents de mon âge et à l'adulte que je suis devenue. Mais ça m'intéresse de revenir ici entendre le flamenco parce que ça me fait saisir ce qu'a été la culture vraiment de mon père, que je traitais par-dessus la jambe. Je me disais, pourquoi il s'intéresse à ça, vraiment, c'est tellement mieux Jimi Hendrix, vous voyez, comment on peut être à l'adolescence. Et là, je comprends mieux ce qu'a été sa culture et la douleur aussi. Je comprends mieux la douleur d'avoir abandonné ces choses-là qui faisaient sa culture. Je le comprends mieux en venant ici m'imprégner de flamenco.
Quel lien gardez-vous avec l'Andalousie ?
Mais écoutez, je suis très heureuse parce que je viens de recevoir une invitation d'une universitaire de la faculté des lettres de Jaén à intervenir auprès des étudiants en septembre prochain. Donc c'est ce sera une occasion d'y retourner. Le lien que j'ai avec l'Andalousie, c'est surtout un lien littéraire, plus qu'un lien charnel. J'y vais rarement. Je peux la traverser en vacances comme on fait. Mais par exemple, un lien à Federico García Lorca, grand, grand, grand poète espagnol, qui a été assassiné par les franquistes en 1937, peut-être, parce qu'il était homosexuel. Et que, évidemment, pour le franquisme, est sans doute trop proche du peuple et donc une menace pour les franquistes de l'époque. Voilà, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, beaucoup aimé. Plus un héritage spirituel que vraiment concret, puisque J'y vais rarement.
Merci à Lydie Salver pour le temps qu'elle nous a consacré.
Nous quittons les Halles et nous nous dirigeons vers le Merle Moqueur à la rencontre de Pierre Dupin, lui aussi en résidence au festival.
Bonjour, je m'appelle Pierre Dupin, je suis originaire des Landes et de Dax, plus spécialement. Et je fais de la photo depuis plusieurs années. Et je me suis passionné depuis 5-6 ans sur un procédé ancien qui s'appelle le collodion humide. C'est une passion qui m'est venue petit à petit. Et pour moi, la photographie, avant tout, c'est surtout la rencontre avec les gens. C'est pouvoir échanger avec eux sur des passions complètement différentes, notamment au niveau du festival. Les artistes qui viennent me voir, je ne les connais pas forcément. Mais ils me partagent et ils prennent du temps avec moi. Je leur explique aussi ma passion et c'est une sorte de communion, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Et une fois qu'on a, qu'on est rentré un petit peu dans ce schéma-là, ben on a envie de continuer parce que pour moi, la vie, c'est la rencontre aussi, quoi. Et les rencontres vraies.
Depuis combien de temps êtes-vous photographe ?
Tu sais, la photographie, moi, elle m'a toujours... Elle m'a toujours accompagné, mais disons que depuis une quinzaine d'années, j'y consacre beaucoup de temps.
Que voulez-vous transmettre dans vos photos ?
Oh là là, la question n'est pas facile. J'ai l'habitude de dire que j'essaye de capter ce qu'on m'offre. C'est que la personne qui vient me voir, il faut qu'elle m'offre des choses, il faut qu'elle m'offre... ce moment, il faut qu'elle m'offre son temps, il faut qu'elle m'offre ses émotions. Et après, ce procédé, il permet de... On n'est jamais sûr du résultat. Il y a une photographe américaine qui s'appelle Saliman qui dit, quand elle utilise cette technique, elle parle de... Elle prélange de l'incertitude. Ce qui veut dire qu'on a beau connaître tous les rouages du procédé, respecter tous les protocoles... Mais le résultat de l'image, il peut être surprenant et sujet à interprétation. Voilà, les photos que j'ai faites hier avec les artistes, ça a été des moments très forts pour eux, pour moi. Parce que voilà, c'est aussi un procédé qui peut révéler les choses. Et ces temps longs de pause permettent aussi de capter des émotions. La tristesse, la peur, voilà. En tout cas, c'est le retour que me font les artistes.
Est-ce que vous retouchez vos photos ou est-ce que vous avez déjà retouché vos photos ?
Comme tu l'as vu, sur les plaques de verre, je ne retouche rien du tout, quoi. C'est la photo, elle est unique. C'est-à-dire, je vais te prendre en photo maintenant, il va y avoir une photo. Je te prends en photo dans 10 minutes, ça sera une autre photo. Donc je ne retouche pas et c'est pas le principe, c'est pas de retoucher, c'est d'avoir on est à l'envers du selfie, quoi. Aujourd'hui tout est beau, il faut tout retoucher, il faut qu'on soit parfait. Mais moi je travaille pas avec le parfait, je travaille avec l'imparfait justement. C'est ce qui m'intéresse. C'est chez les personnes âgées, ça va être leurs rides, ça va être leurs yeux, ça va être... pour moi, en visage, j'arrive à lire une histoire. Quand je regarde quelqu'un, je peux savoir, toi, si tu es triste ou si tu es heureuse. C'est aussi ça. Dans la gestuelle des gens, on peut voir comment, dans quel état ils se trouvent sur le moment où tu les regardes. Donc non, je ne retouche pas. Et il ne faut surtout pas. Il faut accepter ce qui arrive.
Qu'est-ce que le collodion ?
Le procédé s'appelle le collodion humide. Le collodion, à la base, c'est un produit pharmaceutique qu'on trouve chez les pharmaciens. La base du produit, c'est ça, qui servait pendant la Grande Guerre à réparer les peaux des grands brûlés. C'est pour ça que c'est un liquide qui est assez épais et qui permettait de reconstituer les peaux. Donc c'est la base du produit auquel on rajoute de la chimie En l'occurrence, moi je travaille avec du bromure de potassium et du iodure de potassium. Voilà, mais ça c'est un peu comme des recettes de cuisine, on a des dosages très particuliers, très fins. Et ce qui nous donne ce liquide qu'on appelle collodion humide, pourquoi ? Parce que vous connaissez l'argentique, les pellicules argentiques, ben, c'est le même produit sauf qu'il est sec. À cette époque-là, ils ne connaissaient pas encore la technique, donc la photo, quand on la prépare, il faut aller au bout du processus, j'ai 10 minutes, à partir du moment où j'ai coulé mon collodion sur la plaque, j'ai 10 minutes pour faire ma photo et la développer.
Connaissiez-vous cette technique avant de la pratiquer ?
Du tout, mais moi je ne crois pas au hasard. Et j'étais en Belgique il y a quelques années, je cherchais des pellicules Polaroid et je tombe sur un artisan, un commerçant qui a une devanture magnifique. Je rentre chez lui et puis je sympathise, on discute, il vendait du matériel photo. Il me sort une chambre, on va à l'extérieur. Il me dit, venez avec moi, je vous amène dans mon studio. Et là, je trouve cette pratique avec des portraits magnifiques. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que c'est un vrai savoir-faire. Je suis très attaché au patrimoine. Et cette technique-là, ça fait partie du patrimoine. Et la photo, on la fabrique. On la fait de ses propres mains et de ses yeux aussi. C'est pas comme aujourd'hui où le téléphone, tout le monde fait les photos. Mais voilà, je voulais être un peu à contresens de ça, mais surtout aussi prendre le temps de faire les choses. Parce que ce procédé-là, la préparation du festival, ça m'a demandé 2 mois de préparation. Les plaques, je les prépare tous les soirs. Il faut filtrer les bains, des produits. Ça demande énormément de maintenance et de persévérance. Donc il faut vraiment être passionné.
Pourquoi revenir avec une technique pareille aujourd'hui ?
Je crois que je t'ai déjà un petit peu répondu. C'est quand je vois les portraits que je fais avec des artistes et quand je vois leurs réactions, ça m'encourage à continuer parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ce genre de photographie. Et justement, moi, je voulais. On connaît les artistes et on les connaît sur scène, que ce soit des musiciens, des danseurs. Des chanteurs, on les connaît sur scène. Mais quand ils arrivent ici au studio, ils sont dans mon environnement et ils sont complètement différents. Et c'est ça que j'ai envie de capter. Et pour compléter, je suis simplement tombé amoureux de cette pratique parce que le rendu, ça me donne des frissons. Il y a des gens. Quand je les prends en photo, ils voient leur portrait, ils se mettent à pleurer. Enfin, il y a des émotions qui montent. Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas te donner plus d'explications que ça.
Avez-vous beaucoup d'inspiration quand vous prenez des photos d'artistes de flamenco ?
Tu vois, la pratique du collodion, c'est uniquement du portrait. Donc, c'est avec eux que je travaille. Savoir... ce qu'ils veulent. Déjà, je commence par répondre à une commande du festival, parce que je travaille pour le festival. Et après, je fais 2 ou 3 prises de vue avec, la personne précédente, c'était une danseuse. On a travaillé sur le mouvement sur le positionnement des bras et des mains. Voilà, ça peut être des expressions, ça peut être. Ça dépend, c'est suivant le moment et la personne que j'ai en face. Savoir ce qu'elle peut offrir aussi. Mais il faut d'abord que les gens se sentent à l'aise. C'est pour ça que cet espace ici, je l'ai voulu convivial, très personnalisé, où les gens se sentent vraiment à l'abri de l'extérieur.
Merci à Pierre Dupin de nous avoir fait partager sa passion.
Nous retournons aux Halles pour interviewer un de nos anciens camarades, Ange Rioul, bénévole au festival.
Alors je suis là dans un cadre, je suis là avec mes amis adolescents dans le cadre d'un hôpital de jour qui s'appelle l'accueil adolescent de Mont-de-Marsan. On est là pour faire un petit peu du bénévolat comme si c'était un stage. On est là pour découvrir les différentes tâches à laquelle on peut s'attribuer au bénévolat. Donc ça peut être au bar, ça peut être pour lister les personnes qui entrent avec des badges ou pour la cuisine. Et c'est complètement de la découverte.
Vous êtes là pendant combien de temps ?
Alors je suis là pendant 2 journées, on fait donc du fin de matinée 11h jusqu'au milieu de l'après-midi 15h, donc on est là principalement sur les heures de repas, et on est là 2 jours, le mardi et le jeudi.
Est-ce que le bénévolat c'est fatigant dans votre cadre ou pas ?
Pas dans le nôtre parce qu'on travaille pas beaucoup, on n'est pas vraiment à plein temps et surtout on est en mode découverte et c'est même plutôt amusant de découvrir ça.
Dans l'hôpital de jour, qui sensibilisez-vous ?
Des activités par rapport à de la psychologie, de la neuropsychologie avec d'autres adolescents et des adultes, des infirmiers.
Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce podcast.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Hasta luego.
Bailando el ritmo ragatanga, and the DJ that he knows.